Guy de Maupassant, chronique, sélection 2, partie 3. Le Gaulois, l'homme de lettres. L'article d'Octave Mirbeau qui vient de soulever tant de tapages abordait incidemment à une question qui serait bien curieuse à approfondir d'une manière générale, l'influence de la profession sur l'homme. Dans cette attaque au comédien, il est à remarquer que le journaliste visait toujours la profession, qu'il la chargeait de tous ses griefs, qu'il la rendait en quelque sorte responsable des modifications qu'elle fait fatalement subir à ceux qui l'exercent. Déjà, dans Fromont jeune et Risler aîné, Alphonse Daudet avait étudié un comédien aux périodes aiguës de cette maladie spéciale qu'on pourrait appeler le cabotinage. Le cabotinage est la maladie incurable de l'acteur, soit. Les symptômes en sont constants, les manifestations apparentes, soit. Mais n'est-il pas vrai aussi que chaque profession a sa maladie? Que chaque métier déforme d'une façon plus ou moins sensible l'homme normal, lui donne des tics, des habitudes, des manières d'être, de penser, d'agir, qui peuvent plaire à ceux-ci, déplaire à ceux-là. N'est-il pas certain aussi que, avant d'entrer dans la profession qu'on doit choisir, il est nécessaire de porter en soi le germe de cette maladie, qu'on appelle alors vocation, sous peine de n'être jamais qu'un médiocre dans le métier? Pour devenir un comédien de mérite, n'est-il pas indispensable d'être cabot à la naissance, cabot dès qu'on marche et qu'on parle? Mais que dirions-nous donc du monde de l'argent, du monde du sport, etc. Dans le peuple, on suivrait d'une façon plus précise encore les influences du métier sur l'homme. Les ouvriers peintres ressemblent-ils aux ouvriers menuisiers? Les forgerons ne sont-ils pas en tout différents des épiciers? Mais de toutes les professions, celle qui produit le plus de ravages dans l'organisme cérébral, celle qui trouble le plus les fonctions normales de l'esprit, c'est assurément la profession des lettres. Le public considère ordinairement l'homme de lettres comme une sorte d'animal étrange, de fantaisiste, d'original, de paradoxe vivant, de poseur, sans s'expliquer bien nettement cependant en quoi cet être particulier diffère de ses semblables. C'est qu'en lui, aucun sentiment simple n'existe plus. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'il sent, ses joies, ses plaisirs, ses souffrances, ses désespoirs, deviennent instantanément des sujets d'observation. Il analyse malgré tout, malgré lui, sans fin, les cœurs, les visages, les gestes, les intonations. Sitôt qu'il a vu, quoi qu'il ait vu, il lui faut le pourquoi. Il n'a pas un élan, pas un cri, pas un baiser qui soit franc. Pas une de ces actions instantanées qu'on fait parce qu'on doit les faire, sans savoir, sans réfléchir, sans comprendre, sans se rendre compte ensuite. S'il souffre, il prend note de sa souffrance et la classe dans un carton. Il se dit, en revenant du cimetière, où il a laissé celui ou celle qu'il aimait le plus au monde, « C'est singulier ce que j'ai ressenti. C'était comme une ivresse douloureuse, etc. » Et alors, il se rappelle tous les détails, les attitudes des voisins, les gestes faux, les fausses douleurs, les faux visages, et mille petites choses insignifiantes, des observations artistiques, le signe de croix d'une vieille qui tenait un enfant par la main, un rayon de lumière dans une fenêtre, un chien qui traversait le convoi, l'effet de la voiture funèbre sous les grands ifs du cimetière, la tête surprenante d'un croque-mort, et la contraction des traits, l'effort des quatre hommes qui descendaient la bière dans la fosse. Mille choses, enfin, qu'un brave homme, souffrant de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, n'aurait jamais remarqué. Il a tout vu, tout retenu, tout noté, malgré lui, parce qu'il est avant tout, malgré tout, un homme de lettres, et qu'il a l'esprit construit de telle sorte que la répercussion chez lui est bien plus vive, plus naturelle, pour ainsi dire, que la première secousse, l'écho plus sonore que le son primitif. Il semble avoir deux âmes, l'une qui note, explique, commente chaque sensation de sa voisine, de l'âme naturelle commune à tous les hommes. Et il vit, condamné à être toujours, en toute occasion, un reflet de lui-même et un reflet des autres, condamné à se regarder sentir, agir, aimer, penser, souffrir, et à ne jamais souffrir, penser, aimer, sentir, comme tout le monde, bonnement, franchement, simplement, sans s'analyser soi-même après chaque joie et après chaque sanglot. S'il cause, sa parole semble souvent médisante, uniquement parce que sa pensée est clairvoyante et qu'il désarticule tous les ressorts cachés des sentiments et des actions des autres. S'il écrit, il ne peut s'abstenir de jeter en ses livres tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il sait. Et cela, sans exception pour les parents, les amis, mettant à nu, avec une impartialité cruelle, les cœurs de ceux qu'il aime et qu'il a aimés, exagérant même pour grossir les faits, uniquement préoccupé de son œuvre et nullement de ses affections. Et s'il aime une femme, il la dissèque comme un cadavre dans un hôpital. Tout ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, est instantanément pesé dans cette délicate balance de l'observation qu'il porte en lui, et classé à sa valeur documentaire. Qu'elle se jette à son cou dans un élan irréfléchi, il jugera le mouvement en raison de son opportunité, de sa justesse, de sa puissance dramatique, et le condamnera tacitement s'il le sent faux ou mal fait. Acteur et spectateur de lui-même et des autres, il n'est jamais acteur seulement comme les bonnes gens qui vivent sans malice. Tout autour de lui devient de verre les cœurs, les actes, les intentions secrètes, et il souffre d'un mal étrange, d'une sorte de dédoublement de l'esprit, qui fait de lui un être effroyablement vivant, machiné, compliqué et fatigant pour lui-même. Je prends, dans un livre paru récemment, un exemple frappant de cette observation involontaire pratiquée sur soi-même aux heures les plus douloureuses. Un de ceux qui ont le plus souffert par l'art, Gustave Flaubert, après avoir passé la nuit auprès du corps de son plus cher ami, de celui dont la mort le laissa inconsolable, écrivait à M. Maxime Ducamp une étrange et superbe lettre dont voici des fragments. Alfred est mort lundi soir, à minuit. Je l'ai enterré hier. Je l'ai gardé pendant deux nuits. Je l'ai enseveli dans son drap. Je lui ai donné le baiser d'adieu et j'ai vu souder son cercueil. J'ai passé là deux jours larges. En le gardant, je lisais les religions de l'Antiquité, de Creuser. La fenêtre était ouverte, la nuit était superbe, on entendait les chants du coq, et un papillon de nuit voltigeait autour du flambeau. Jamais je n'oublierai tout cela, ni l'air de sa figure, ni le premier soir, à minuit, le son éloigné d'un cor de chasse qui m'est arrivé à travers les bois. Le mercredi, j'ai été me promener tout l'après-midi avec une chienne qui m'a suivie sans que je l'aie appelée. Cette chienne l'avait pris en affection et l'accompagnait toujours quand il sortait seul. La nuit qui a précédé sa mort, elle a hurlé horriblement, sans qu'on ait pu la faire taire. De temps à autre, j'allais lever le voile qu'on lui avait mis sur le visage pour le regarder. Quand le jour apparut, vers 4 heures, moi et la garde, nous nous sommes mis à la besogne. Je l'ai soulevé, retourné et enveloppé. L'impression de ses membres froids et roidis m'est restée toute la journée au bout des doigts. Il était affreusement décomposé. Nous lui avons mis 2 linceuls. Quand il a été ainsi arrangé, il ressemblait à une momie égyptienne serrée dans ses bandelettes. Et j'ai éprouvé, je ne puis dire, quel sentiment énorme de joie et de liberté pour lui. Le brouillard était blanc. Les bois commençaient à se détacher sur le ciel. Les 2 flambeaux brillaient dans cette blancheur naissante. Des oiseaux ont chanté, et je me suis dit cette phrase de son Bélial. Il ira, joyeux oiseau, saluer dans les pins le soleil levant. On l'a porté à bras au cimetière. La course a duré plus d'une heure. Placé derrière, je voyais le cercueil osciller avec un mouvement de barque qui remue au roulis. L'office a été atroce de longueur. Au cimetière, la terre était grasse. Je me suis approchée sur le bord et j'ai regardé, une à une, toutes les pelletées tomber. Il m'a semblé qu'il en tombait 100 000. Un autre eût pleuré simplement, puis oublié. Il me semble que ces douleurs clairvoyantes doivent être plus aiguës, et ces âmes attentives et complexes, plus malheureuses que celles des autres. 6 novembre 1882. Les Subtils, texte publié dans Gil Blas. Autant d'hommes, autant de manières de comprendre et de regarder la vie. Les uns ne font que voir à la façon des animaux. Les faits, les choses, les visages, les événements semblent ne se refléter que dans leurs yeux, sans produire de répercussions dans l'intelligence. Sans éveiller cette suite infinie de raisonnements, d'idées enchaînées, de réflexions, de déductions, qui se prolongent indéfiniment, comme les vibrations d'un son ou les ondes dans l'eau où vient de tomber une pierre. Les autres, au contraire, s'acharnent à pénétrer toujours le mystérieux mécanisme des motifs et des déterminations. Quand une fois l'esprit se met à chercher le secret des causes, il s'enfonce, il s'égare, se perd souvent dans l'obscur et inextricable labyrinthe des phénomènes psychologiques et physiologiques. Depuis tant de siècles que le monde existe et qu'on observe, c'est à peine si les esprits les plus pénétrants ont pu saisir quelques-uns des secrets cachés dans l'homme et autour de l'homme. Ceux qui sont autour de nous, d'ailleurs, nous échapperont toujours en grande partie. Car, ainsi que l'a dit Gustave Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, la science est faite suivant les données fournies par un coin de l'étendue. Peut-être ne convient-elle pas à tout le reste qu'on ignore, qui est beaucoup plus grand et qu'on ne peut découvrir. Mais la recherche des seuls phénomènes psychologiques a préoccupé de tout temps les chercheurs. Jadis, les philosophes avaient le monopole de ces études qu'ils exposaient en des livres graves. Aujourd'hui, ce sont surtout les romanciers observateurs qui s'efforcent de pénétrer et d'expliquer l'obscur travail des volontés, le profond mystère des réflexions inconscientes, les déterminants tantôt plus instinctifs que raisonnés et tantôt plus raisonnés qu'instinctifs, d'indiquer la limite insaisissable où le vouloir réfléchi se mêle, pour ainsi dire, à une sorte de vouloir matériel sensuel, à un vouloir animal, de noter les actions de l'un sur l'autre, etc. Un des hommes dont je vais m'occuper tout à l'heure, M. Paul Bourget, dit à la première page de sa remarquable nouvelle « L'irréparable » « Par-dessous l'existence intellectuelle et sentimentale dont nous avons conscience et dont nous endossons la responsabilité, probablement illusoire, tout un domaine s'étend, obscur et changeant, qui est cependant celui de notre vie inconsciente. » C'est ce domaine mystérieux qu'explorent aujourd'hui les romanciers, avec des méthodes très différentes. Les uns, qui sont purement des objectifs, au lieu de mettre à jour la psychologie des personnages en des dissertations explicatives, la font simplement apparaître par leurs actes. Les dedans se trouvent ainsi dévoilés par les dehors, sans aucune argumentation psychologique. Les autres, comme M. Paul Bourget, font, pour ainsi dire, la géographie morale des gens qu'ils présentent au lecteur, et ils entrent jusqu'au profond de leur âme pour dévoiler les mobiles de leurs actions. On pourrait appeler ceux-ci des métaphysiciens et ceux-là des metteurs en scène. Mais il faut encore distinguer parmi les romanciers deux grandes tendances générales. L'une qui pousse les analystes à simplifier l'âme humaine observée, à faire, en quelque sorte, la somme des nuances de même nature pour frapper le lecteur par un trait typique, par une note unique et caractéristique. L'autre qui les détermine, au contraire, à saisir et à montrer une à une les plus vagues, les plus fugitives sensations de la pensée, les plus obscures évolutions de la volonté, à ne négliger aucun détail d'aucune nature, aucune nuance d'aucune sorte. Ces derniers auraient donc au contraire une propension à compliquer. On les pourrait appeler les subtils. Dans les œuvres des premiers, la vie apparaît par image comme dans la réalité. Les visions passent devant les yeux du lecteur, éveillant en lui plus ou moins d'attention, plus ou moins de réflexion. Il en tire, suivant le degré de son intelligence, des conclusions plus ou moins profondes et des déductions plus ou moins étendues. Il peut, à son gré, s'il n'est doué d'aucun esprit de pénétration, se contenter de regarder se dérouler l'aventure et agir les personnages comme il regarderait un accident et des passants dans la rue. Les subtils, au contraire, forcent les lecteurs à un travail de pensée délicieux pour les uns et pénible pour les autres. Il faut, pour suivre toutes les finesses de leurs aperçus et les arguties de leurs remarques, demeurer toujours en éveil, toujours au guet. On accomplit à leur suite un voyage d'exploration dans le cerveau humain. Il faut un effort constant d'attention et d'intelligence pour marcher derrière eux dans ce dédale. Parmi les écrivains classés dès aujourd'hui comme des maîtres, je ne parle que des observateurs artistes, Flaubert représente parfaitement le type du romancier essentiellement objectif, tandis que les frères de Goncourt sont des subtils. Parmi les écrivains actuellement en plein labeur et en plein talent, deux hommes nous montrent, avec des qualités très différentes, des manières de voir et d'écrire très opposées, et une valeur tout à fait supérieure. Deux types très différents de subtils. Ce sont messieurs Catulle Mendès et Paul Bourget. Catulle Mendès. Chez lui, tout est subtil et tout est séduisant. C'est un poète charmant, un poète même en prose. Il n'a qu'un souci médiocre de la réalité et se contente de demeurer dans le possible par suite, sans doute, de cette certitude que tout arrive. Je veux dire par là qu'au lieu de chercher à frapper l'esprit par la vraisemblance éclatante, indéniable, des caractères et des faits, ce que veulent obtenir les réalistes, en négligeant les vérités exceptionnelles, pour ne choisir que les vérités constantes, il aime, il préfère, les personnages qui ont un grain d'anormal et les sujets où se mêle un peu d'étrange. Sa fantaisie charmante, imprévue et bizarre, se plaît hors la règle commune. Elle évoque des êtres capricieux, délicats, pervers, toujours subtils, toujours compliqués, toujours intéressants par le mystère souvent criminel de leur âme. Il a bien fait ressortir toutes les ressources surprenantes de son exquis talent dans cette série de singuliers portraits qu'il intitula « Les monstres parisiens ». Il vient de publier 2 volumes où il montre, sous 2 faces nouvelles, ses admirables qualités d'observateur indépendant et fantaisiste. L'un de ces 2 livres est fortement osé. Il s'appelle « Le boudoir de verre ». L'autre, non moins délicat et rusé, mais plus honnête, a pour titre « Les jeunes filles ». Dans l'un et dans l'autre, apparaît cette subtilité alerte, pénétrante, si artiste, si personnelle, qui est la marque de son talent, qui fait de Catulle Mendès un maître curieux, ne ressemblant à personne, ne pouvant être classé dans aucune école, ni comparé à aucun autre écrivain. Son style fin, agile, malin, sournois, a des hardiesses secrètes, des hardiesses jésuistiques que personne ne tenterait. Sa pensée masquée et merveilleusement servie par l'incomparable artifice de cette langue ne recule devant rien. Et si on poursuivait les écrivains, aucun magistrat ne pourrait relever un outrage à la morale dans un de ces contes d'une corruption sans pareil, mais d'une telle adresse de phrase qu'il braverait les plus adroits inquisiteurs. Paul Bourget. Il vient de publier un très remarquable volume, L'Irréparable, qui donne bien la note de ce penseur, de cet observateur profond et mélancolique. Celui-là est surtout un délicat, un effarouché devant les brutalités de la vie, un vibrant et splénétique à la manière anglaise. Tout préoccupé des phénomènes mystérieux de l'âme, il les suit avec une subtilité sérieuse et les exprime dans une langue précise, un peu philosophique, mais qui dévoile merveilleusement toutes les obscures évolutions de la pensée et de la volonté chez l'être humain. C'est sur les femmes que s'exerce le plus volontiers son analyse pénétrante et bienveillante. Car on sent qu'il aime les femmes d'un amour infini et désintéressé. Il les connaît, les raconte, les montre avec une étonnante sûreté de vue. Et la délicatesse presque exagérée de sa pensée apparaît à tout instant. Soit qu'il parle des hommes qui veulent seulement avoir des femmes, verbe brutal qui décèle bien la secrète brutalité de ces sortes de rapports cruels entre les sexes, qu'on appelle pourtant du beau nom d'amour, soit qu'il analyse un de ces personnages qu'il montre atteint d'une maladie étrange, bien moderne, observée et exprimée par lui avec une rare perspicacité. Il était malade d'un excès de subtilité, toujours à la recherche de la nuance rare. Et, quoique supérieurement intelligent, il ne devait jamais atteindre à cette large et franche conception de l'art qui produit les œuvres géniales. Il dit d'ailleurs, c'est une femme qui parle, « J'étais toute jeune alors, je n'avais pas acquis cette indulgence que donne le sentiment de l'inachevé de la vie. » Quoi de plus juste, de plus saisissant et de plus aigu que ces observations qui tombent de sa plume au cours du récit, de page en page. Il semble qu'il porte une lampe, une petite lampe vive et mystérieuse, comme celle des mineurs, et qu'il éclaire d'une rapide lumière, par une ligne, par un mot, à mesure qu'il fait agir un personnage, le fond secret de sa pensée. Et il donne en même temps, lui aussi, d'une façon discrète et un peu triste, son avis sur les choses et les hommes. Il laisse apparaître sans cesse ses déductions, ne laissant pas au lecteur le choix et la liberté, soit de conclure dans un sens ou dans l'autre, soit de ne point conclure du tout. Paul Bourget, qui avait pris, comme poète et comme critique, une place éminente parmi les écrivains de ce temps, vient de se placer aussi au premier rang des romanciers observateurs, psychologues et artistes. 3 juin 1884. Gil Blas, Messieurs de la chronique. Elle n'est point près de finir la grande querelle des romanciers et des chroniqueurs. Les chroniqueurs reprochent aux romanciers de faire de médiocres chroniques, et les romanciers reprochent aux chroniqueurs de faire de mauvais romans. Ils ont un peu raison les uns et les autres, mais il serait étonnant d'entendre les pianistes reprocher aux flûtistes de manquer de doigts, et les flûtistes reprocher aux pianistes d'avoir le souffle trop court. Ils sont musiciens les uns et les autres, cependant, bien que l'instrument diffère. Il en est de même des chroniqueurs et des romanciers, qui sont des hommes de lettres avec des tempéraments différents. Je dirais même des tempéraments opposés. Le romancier a besoin de pénétration, d'idées générales, d'observations profondes et minutieuses des hommes, et surtout une suite sévère dans l'enchaînement des pensées et des événements, d'où dépend la composition d'un livre. L'observation du chroniqueur doit porter sur les faits bien plus que sur les hommes, le fait étant la nourriture même du journal. Et ce doit être encore bien plus de l'appréciation que de l'observation. Le chroniqueur doit en outre avoir plus de traits que de profondeur, plus de saillie que de description, plus de gaieté que d'idée générale. Les qualités maîtresses du romancier, qui sont l'haleine, la tenue littéraire, l'art du développement méthodique, des transitions et de la mise en scène, et surtout, la science difficile et délicate de créer l'atmosphère où vivront les personnages deviennent inutiles et même nuisibles dans la chronique, qui doit être courte et hachée, fantaisiste, sautant d'une chose à une autre et d'une idée à la suivante sans la moindre transition, sans ces préparations minutieuses qui demandent tant de peine aux faiseurs de livres. J'ai parlé de l'atmosphère d'un livre, et c'est là le point capital, essentiel. C'est l'atmosphère de la terre, existant avant tout, qui a déterminé les races, la structure, les organes, toute la manière de vivre des êtres nés et développés sur le globe, et qui ont soumis à toutes les fatalités du lieu, de l'air, du climat, et modifié même suivant les continents. C'est l'atmosphère d'un livre qui rend vivants, vraisemblables et acceptables les personnages et les événements. Tout arrive dans la vie et tout peut arriver dans le roman. Mais il faut que l'écrivain ait la précaution et le talent de rendre tout naturel, par le soin avec lequel il crée le milieu et prépare les événements, au moyen des circonstances environnantes. Donc, les qualités maîtresses du romancier deviennent stériles dans le journal et lui donnent même un air de gêne et de lourdeur. Tandis que les qualités essentielles du chroniqueur, la bonne humeur, la légèreté, la vivacité, l'esprit, la gaieté, donnent au roman des journalistes un air négligé, décousu, peu approfondi. S'il fallait pousser plus loin cette analyse, on remarquerait encore que le chroniqueur plaît surtout parce qu'il prête aux choses qu'il raconte son tour d'esprit, l'allure de sa verve, et qu'il les juge toujours avec la même méthode, leur applique le même procédé de pensée et d'expression auquel le lecteur du journal est habitué. Le romancier, au contraire, doit, tout en donnant à son œuvre la marque de son originalité propre, se faire autant de tempéraments qu'il met en scène de personnes. Il doit apprécier avec leurs jugements divers, voir la vie avec leurs yeux, donner le reflet des faits et des choses dans tous ces esprits contraires, différemment organisés, suivant leur tempérament physique et les milieux où ils se sont développés. Aussi ne s'est-il jamais rencontré un romancier qui fût un chroniqueur, et jamais un chroniqueur qui fût un bon romancier. Les vrais chroniqueurs sont tout aussi rares et aussi précieux que les vrais romanciers. Et combien en compte-t-on qui résistent seulement 4 ou 5 ans à ce métier terrible d'écrire tous les jours, d'avoir de l'esprit tous les jours, de plaire tous les jours au public? Le romancier peut braver la colère de ses juges, s'en moquer même, et attendre la justice de l'avenir. Il poursuit son œuvre suivant l'idéal qu'il s'est créé, suivant ses croyances et sa nature. Le chroniqueur, au contraire, n'existe que par la faveur immédiate du public. Il faut qu'il soit sans cesse le favori des lecteurs, qu'il s'efforce sans cesse de les séduire ou de les convaincre. Il a besoin pour cet effort constant d'une incroyable énergie, d'un tempérament infatigable, d'un esprit et d'une présence d'esprit sans limite. Le mépris systématique des romanciers pour leurs frères du journalisme n'empêchera point qu'il soit aussi difficile au directeur d'un grand journal de découvrir un chroniqueur qu'il est difficile à un éditeur de mettre la main sur un auteur. Je veux, en quelques lignes, faire le portrait des principaux chroniqueurs parisiens, des maîtres, de ceux qui, par la durée de leur labeur et de leur succès, ont prouvé la valeur persistante de leur talent. J'en laisserai de côté d'excellents qui sont plus jeunes ou moins arrivés. Et puis, je veux surtout choisir ceux qui sont les types de l'espèce. Ne songeons point à les classer. Aussi bien les chroniqueurs sont susceptibles. On a dit des poètes autrefois « irritabile genus ». On peut le dire aujourd'hui des journalistes. Autant les romanciers ont ou affectent d'indifférence pour les jugements qu'on porte sur eux, autant les chroniqueurs ont l'humeur excitable et la patience courte. Il ne les faut toucher qu'avec des gants et avec 1000 précautions. Ceux dont je veux parler méritent ces égards. Nous commencerons donc Aleph, sixième lettre de l'alphabet, par M. Henri Fouquier. Un grand garçon, beau garçon, portant toute sa barbe, une large barbe blonde, galante et parfumée. La figure est douce, fine et calme, très calme. Il a le geste sobre et la parole modérée. Et la forme de son talent répond à celle de sa personne. C'est un chroniqueur sage et mordant par des moyens cachés. Écrivain soigneux, châtier, amoureux de sa langue et la connaissant en perfection, il l'emploie avec des précautions délicates, avec des ruses et des perfidies sous les mots. Au lieu de frapper par des atteintes directes, comme Scholl, dont les attaques ressemblent à des coups d'épée, il a des traits qui restent dans la plaie, accrochés par des intentions sournoises, pareilles aux barbes des hameçons. Bien qu'il traite les questions du jour, il n'est qu'à moitié ce qu'on appelle un chroniqueur d'actualité, car il voit surtout, dans les sujets qu'il choisit, la moralité qu'il en veut tirer, et non point une moralité amusante ou piquante, mais une moralité de philosophe. Henri Fouquier est, en effet, un philosophe, d'une race aujourd'hui disparue. Un philosophe du XVIIIe siècle, bienveillant, optimiste, assez indifférent, satisfait des gens, des choses et du monde, irrité contre les désespérés, contre les pessimistes, contre les penseurs précis et désolés de l'école de Schopenhauer. Il aime vivre, le montre et le dit. Et il porte dans ses écrits, comme dans sa personne, le reflet de cette satisfaction. Son esprit, orné et lettré, se complaît dans la galante métaphysique des hommes du dernier siècle que l'amour rêvé ou obtenu consolait de tout. Et il semble voir l'existence, toutes les choses tristes, navrantes, terribles de la terre, à travers un voile transparent où seraient dessinées des images et des figures de femmes souriantes, coquettes, montrant la grâce de leurs lignes, le charme de leurs sourires, l'appel de leurs yeux et de leurs bouches. Il n'a pourtant pas le scepticisme de ses ancêtres, dont il a hérité la morale gracieuse. Et les enseignements qu'il tire des choses du jour sont parfois empreints d'une certaine prudomie, que je regrette pour ma part, mais que goûte fort le public. Il est, en somme, un des écrivains les plus remarquables et les plus aimés de la presse actuelle, un de ceux qui font estimer et respecter le journalisme. Monsieur Henri Rochefort. Qui ne connaît cette figure de clown spirituel, nerveuse et mobile, avec le haut toupet blanc, le nez cassé, l'œil inquiet, la voix fêlée? Et dans toute l'allure, un tel charme cordial et franc que ce terrible, ce révolté, ce démolisseur est aimé de ses plus furieux adversaires qui lui tendent la main avec plaisir. Confrère excellent et sûr, Henri Rochefort le démocrate est, détail étrange, un remarquable connaisseur en bibelots d'art, en tableaux anciens, en vieillerie de toute espèce et un amateur passionné de toutes ces choses. Celui-là ne procède point par coup d'adresse ni par coup de pointe pour abattre ses ennemis, mais par crocs en jambes prestement passés. Crocs en jambes à l'homme, crocs en jambes au français, crocs en jambes à la grammaire, crocs en jambes même à la raison, et le tour est fait. L'adversaire culbuté ne se relèvera pas. Son esprit, imprévu, éclatant comme un pétard, n'emprunte rien à la tradition de notre race, à la tradition de finesse et de pointe où se sont exercés nos pères. Il en dérive cependant d'une façon indirecte, et pour n'être pas tout à fait légitime, il n'en est pas moins français. Ce galant et charmant homme au masque de clown a inventé une clownerie bizarre de la langue, une manière de faire sauter les mots, de les désarticuler, de leur faire prendre des attitudes et des contorsions imprévues qui font rire, d'un rire impérieux, irrésistible, immodéré, comme les véritables clowneries des vrais clowns dans les cirques. Il fait naître, par des rapprochements de syllabes, des à peu près imprévus, par des calembredaines fantastiques, des éveils de pensées surprenantes et cocasses. Il lui faut une seconde pour appeler Kamkastet, Monsieur Kamkas, en apprenant sa nomination aux fonctions de préfet de police. Et sans cesse de son esprit, de sa bouche et de sa plume tombent des mots inattendus et singulièrement comiques, des jugements d'une vérité désopilante, dans une forme saisissante de drôlerie. Et tout le monde s'amuse de cette intérissable verve parisienne. Depuis les femmes les plus fines jusqu'au voyou le plus illettré, pourvu qu'il ait respiré cet air du trottoir qui met dans le cerveau ce quelque chose d'inconnu qui semble l'âme de Paris. Après l'air, arrêtons-nous à la lettre suivante. S. Monsieur Aurélien Scholl. Le nombre des mots que Scholl a semés dans le monde est aussi grand que celui des étoiles. Tous les chroniqueurs présents et les chroniqueurs futurs puisent et puiseront dans ce réservoir de l'esprit. Il a le trait direct et sûr, frappant comme une balle et crevant son homme. Le trait, suivant la bonne tradition du XVIe siècle, rajeuni par lui, et qui deviendra encore par lui la tradition du XIXe siècle. En lisant une bonne chronique d'Aurélien Scholl, on croirait sentir la moelle de la gaieté française coulant de sa source naturelle. Il est, dans le vrai sens du mot, le chroniqueur spirituel, fantaisiste et amusant. Gascon, grand, bel homme, élégant et souple, il donne bien aussi l'idée de son talent un peu casseur d'assiettes et rodomont. Il a fait malheureusement beaucoup d'élèves qui sont bien loin de le valoir, ayant pris sa manière sans avoir son esprit. À la quatrième avant-dernière lettre de l'alphabet, nous trouvons M. Albert Wolff. Tout différent des trois autres, celui-là procède avec un flair et une sûreté de limier pour découvrir le fait du jour, le fait parisien, le fait, enfin, qui doit intéresser, émouvoir, passionner le plus le public, son public. Non seulement il le découvre, mais il le fouille, le commente et le développe, juste de la façon dont il doit être fouillé, commenté, et développé. Ce jour-là même, pour répondre à l'attente de tous les esprits. Je parlais tout à l'heure de l'atmosphère à créer autour des personnages d'un livre. Eh bien, M. Albert Wolff subit l'atmosphère du moment d'une telle façon qu'il semble écrire souvent ce que pensent et ce qu'ont pensé tous ses lecteurs, tant il leur donne le résumé de leur opinion, formulé avec sa verve souvent pointue et caustique, toujours amusante, fine et bien littéraire. Et ses fidèles, en le lisant, éprouvent à peu près le sentiment d'un homme à qui on servirait, quand il entre dans un restaurant, le plat unique qu'il désirait manger ce jour-là et auquel il n'avait peut-être pas songé. Monsieur Wolff est en outre en train de faire ce que devraient faire tous les chroniqueurs vraiment parisiens qui ont vécu longtemps cette vie mouvementée, si renseignée et si bizarre des journalistes. Il écrit ses mémoires. Le premier volume contenant des souvenirs de voyage des plus intéressants. Le second, L'écume de Paris, est une fort curieuse, fort saisissante et fort originale étude des dessous secrets de cette grande capitale des capitales. Les voyous sinistres, les forçats célèbres, les monstres, les adultères sanglants, le crime et la folie sont des pages profondes, terribles et singulièrement attachantes. j'aurais tant désiré parler d'un autre encore, mort tout dernièrement, Léon Chaperon, qui avait apporté dans la chronique contemporaine une note bien particulière, alerte et mordante. Il était en outre un des hommes les plus sincères du journalisme actuel, d'une sincérité même brutale, mais d'une loyauté à toute épreuve. Et si on me demandait maintenant de citer un nom parmi les plus jeunes, parmi ceux d'aujourd'hui qui sont ceux de demain, je le choisirais dans ce journal et je dirais Gros Claude. 11 novembre 1884. Les soirées de Médan, texte publié dans Le Gaulois. Les soirées de Médan, comment ce livre a été fait. À Monsieur le directeur du Gaulois. Votre journal fut le premier à annoncer les soirées de Médan, et vous me demandez aujourd'hui quelques détails particuliers sur les origines de ce volume. Il vous paraîtrait intéressant de savoir ce que nous avons prétendu faire, si nous avons voulu affirmer une idée d'école et lancer un manifeste. Je réponds à ces quelques questions. Nous n'avons pas la prétention d'être une école. Nous sommes simplement quelques amis qu'une admiration commune a fait se rencontrer chez Zola et qu'ensuite une affinité de tempérament, des sentiments très semblables sur toutes choses, une même tendance philosophique ont lié de plus en plus. Quant à moi, qui ne suis encore rien comme littérature, comment pourrais-je avoir la prétention d'appartenir à une école ? J'admire indistinctement tout ce qui me paraît supérieur à tous les siècles et dans tous les genres. Cependant, il s'est fait évidemment en nous une réaction inconsciente, fatale, contre l'esprit romantique, par cette seule raison que les générations littéraires se suivent et ne se ressemblent pas. Mais, du reste, ce qui nous choque dans le romantisme, d'où sont sorties d'impérissables œuvres d'art, c'est uniquement son résultat philosophique. Nous nous plaignons de ce que l'œuvre de Hugo est détruite en partie, l'œuvre de Voltaire et de Diderot. Par la sentimentalité ronflante des romantiques, par leur méconnaissance dogmatique du droit et de la logique, le vieux bon sens, la vieille sagesse de Montaigne et de Rabelais ont presque disparu de notre pays. Ils ont substitué l'idée de pardon à l'idée de justice, semant chez nous une sensiblerie miséricordieuse et sentimentale qui a remplacé la raison. C'est grâce à eux que les salles de théâtre, pleines de messieurs véreux et de filles, ne peuvent tolérer sur la scène un simple fripon. C'est la morale romantique des foules qui force souvent les tribunaux à acquitter des particuliers et des drôlesses attendrissantes mais sans excuses. J'ai pour les grands maîtres de cette école, puisqu'il s'agit d'école, une admiration sans limite, jointe souvent à une révolte de ma raison. Car je trouve que Schopenhauer et Herbert Spencer ont sur la vie beaucoup d'idées plus droites que l'illustre auteur des Misérables. Voilà la seule critique que j'oserais faire. Et il ne s'agit pas ici de littérature. Littérairement, ce qui nous paraît haïssable, ce sont les vieilles orgues de barbarie larmoyante, dont Jean-Jacques Rousseau a inventé le mécanisme et dont une suite de romanciers, arrêtés, je l'espère, à M. Feuillet, s'est obstinée à tourner la manivelle, répétant invariablement les mêmes airs langoureux et faux. Quant aux querelles sur les mots réalisme et idéalisme, je ne les comprends pas. Une loi philosophique inflexible nous apprend que nous ne pouvons rien imaginer en dehors de ce qui tombe sous nos sens. Et la preuve de cette impuissance, c'est la stupidité des conceptions dites idéales, des paradis inventés par toutes les religions. Nous avons donc ce seul objectif, l'être et la vie, qu'il faut savoir comprendre et interpréter en artiste. Si on ne donne pas l'expression à la fois exacte et artistiquement supérieure, c'est qu'on n'a pas assez de talent. Quand un monsieur qualifié de réaliste a le souci d'écrire le mieux possible, est sans cesse poursuivi par des préoccupations d'art, c'est, à mon sens, un idéaliste. Quant à celui qui affiche la prétention de faire la vie plus belle que nature, comme si on pouvait l'imaginer autre qu'elle n'est, de mettre du ciel dans ses livres, et qui écrit en romancier pour les dames, ce n'est à mon avis du moins qu'un charlatan ou un imbécile. J'adore les contes de fées, et j'ajoute que ces sortes de conceptions doivent être plus vraisemblables dans leur domaine particulier que n'importe quel roman de mœurs de la vie contemporaine. Voici maintenant quelques notes sur notre volume. Nous nous trouvions réunis l'été chez Zola dans sa propriété de Médan. Pendant les longues digestions des longs repas, car nous sommes tous gourmands et gourmets, et Zola mange à lui seul comme trois romanciers ordinaires. Nous causions. Il nous racontait ses futurs romans, ses idées littéraires, ses opinions sur toutes choses. Quelquefois, il prenait un fusil qu'il manœuvrait en myope et, tout en parlant, il tirait sur des touffes d'herbe que nous lui affirmions être des oiseaux, s'étonnant considérablement quand il ne retrouvait aucun cadavre. Certains jours, on pêchait à la ligne et Nick, alors, se distinguant au grand désespoir de Zola qui n'attrapait que des savates. Moi, je restais étendu dans la barque l'Anana, ou bien je me baignais pendant des heures, tandis que Paul Alexis rôdait avec des idées grivoises, que Huysmans fumait des cigarettes, et que Séard s'embêtait, trouvant stupide la campagne. Ainsi se passaient les après-midi. Mais comme les nuits étaient magnifiques, chaudes, pleines d'odeurs de feuilles, nous allions chaque soir nous promener dans la grande île en face. Je passais tout le monde dans l'Anana. Or, par une nuit de pleine lune, nous parlions de Mérimée, dont les dames disaient « Quel charmant conteur !» Huysmans prononça à peu près ces paroles. « Un conteur est un monsieur qui, ne sachant pas écrire, débite prétentieusement des balivernes. » On en vint à parcourir tous les conteurs célèbres et à vanter les raconteurs de vive voix, dont le plus merveilleux, à notre connaissance, est le grand russe Tourguenieff, ce maître presque français. Paul Alexis prétendait qu'un conte écrit est très difficile à faire. Séard, un sceptique, regardant la lune, murmura. Voici un beau décor romantique, on devrait l'utiliser. Huysmans ajouta en racontant des histoires de sentiments. Mais Zola trouva que c'était une idée qu'il fallait se dire des histoires. L'invention nous fit rire et on convint, pour augmenter la difficulté, que le cadre choisi par le premier serait conservé par les autres qui y placeraient des aventures différentes. On alla s'asseoir et, dans le grand repos des champs assoupis, sous la lumière éclatante de la lune, Zola nous dit cette terrible page de l'histoire sinistre des guerres qui s'appelle « L'attaque du moulin ». Quand il eut fini, chacun s'écria « Il faut écrire cela bien vite !» Lui se mit à rire « C'est fait !» Ce fut mon tour le lendemain. Huysmans, le jour suivant, nous amusa beaucoup avec le récit des misères d'un mobile sans enthousiasme. Séard, nous redisant le siège de Paris avec des explications nouvelles, déroula une histoire pleine de philosophie, toujours vraisemblable sinon vraie, mais toujours réelle depuis le vieux poème d'Homère. Car si la femme inspire éternellement des sottises aux hommes, les guerriers qu'elle favorise plus spécialement de son intérêt en souffrent nécessairement plus que d'autres. Hénic nous démontra encore une fois que les hommes, souvent intelligents et raisonnables, pris isolément, deviennent infailliblement des brutes quand ils sont en nombre. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ivresse des foules. Je ne sais rien de plus drôle et de plus horrible en même temps que le siège de cette maison publique et le massacre des pauvres filles. Mais Paul Alexis nous fit attendre 4 jours, ne trouvant pas de sujet. Il voulait nous raconter des histoires de Prussiens souillant des cadavres. Notre exaspération le fit taire et il finit par imaginer l'amusante anecdote d'une grande dame allant ramasser son mari mort sur un champ de bataille et se laissant attendrir par un pauvre soldat blessé. Et ce soldat était un prêtre. Zola trouva ces récits curieux et nous proposa d'en faire un livre. Voilà, monsieur le directeur, quelques notes vite griffonnées, mais contenant, je pense, tous les détails qui peuvent vous intéresser. Veuillez agréer, avec mes remerciements pour votre bienveillance, l'assurance de mes sentiments les plus dévoués. 17 avril 1880.